Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Personne ne veut vraiment de cette affiche aux États-Unis, mais rien ne semble pouvoir changer le cours de cette campagne électorale. Joe Biden et Donald Trump ont tous les deux remporté la primaire dans leur camp, dans le Michigan. Hier, malgré l'âge du président des États-Unis, malgré les nombreuses affaires de son prédécesseur, les deux hommes de 77 et 81 ans dominent la partie. Mais la dynamique en faveur de Trump commence à inquiéter les démocrates. Joe Biden est distancé dans les sondages, notamment en raison d'une contestation dans son camp de sa proximité avec Israël dans le conflit au Proche-Orient. Fidèle à ses thèmes de prédilection, Donald Trump dénonce l'invasion et entraîne l'ensemble de la campagne sur une thématique qui lui est chère, celle de l'immigration. D'ailleurs, les deux candidats se rendront demain au Texas. Dans le camp Biden, on compte, vous le verrez tout à l'heure, sur une arme de distraction massive, la carte Taylor Swift, la méga star devenue aujourd'hui visiblement l'ennemi numéro un des Républicains. Biden peut-il encore arrêter Trump? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Corentin Célin, vous êtes historien spécialiste des États-Unis, vous êtes professeur agrégé d'histoire au lycée Carnot à Dijon, vous êtes également chroniqueur au journal Les Jours. Votre dernière chronique est intitulée « Trump, destination finale sur la victoire de Trump en Caroline du Sud ». On va longuement en parler ce soir. Alain Boer est avec nous, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, vous êtes responsable du pôle sécurité, défense, renseignement. Citons votre livre « Au commencement était la guerre », publié chez Fayard, et je précise que vous rentrez des États-Unis où vous étiez aux États-Unis. Vous
êtes rentré... J'y pars.
Mais vous y étiez au mois de janvier.
Oui, mais j'y pars.
Vous y retournez aussi. Bon, très bien, on suit votre agenda au jour le jour, vous avez remarqué. Allez, Anne Toulouse est avec nous. Vous êtes journaliste franco-américaine. Votre dernier livre, L'art de Trumper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde, qui est publié aux éditions du Rocher. Enfin, avec nous ce soir, Amy Green. Vous êtes enseignante, chercheure à l'université Paris Sciences et Lettres et à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de la vie politique américaine. Bonsoir à tous les quatre. Ah. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous parlons des États-Unis ce soir car il y avait un moment important hier soir avec la primaire dans le Michigan, Corentin Célin. Les deux candidats des Républicains et des Démocrates, Biden et Trump, se sont installés confortablement et seront sans doute à l'affiche de la prochaine présidentielle.
Oui, alors sauf évidemment imprévu, accident de santé, etc., on va vers un rematch, vers un nouveau duel, le même qu'en 2020. La primaire du Michigan, en fait, n'est venue que conforter ce qu'on savait déjà. Biden n'avait plus d'opposition à proprement parler, sauf deux candidats résiduels, Phillips et Williamson, mais il avait un défi hier au Michigan, c'était de voir, de mesurer ceux qui ne souhaitaient pas le soutenir dans cet État à très forte population originaire du Moyen-Orient et du Maghreb, ceux qui ne le soutiennent pas à cause de Gaza, à cause de son soutien à Israël à Gaza, et qui avaient appelé à voter uncommitted, c'est-à-dire...
Voter blanc.
Eh bien, il y a un peu plus de 13% des électeurs démocrates du Michigan qui ont voté blanc. C'est relativement important. Ça prouve en tout cas qu'il a un effort à faire sur cet électorat-là, même s'il est de toute évidence, le futur présidentiel démocrate. Du côté républicain, Trump avait déjà, je crois, réglé l'affaire en Caroline du Sud face à Nikki Haley, dans le bastion de Nikki Haley. Il a confirmé hier au Michigan, pour lui, la petite crainte, c'est qu'il fait moins bien chez les électeurs diplômés. On voit que dans les banlieues résidentielles à forte population diplômée, il fait moins bien.
Ça veut dire qu'on a deux candidats qui sont solides ou, avec les réserves qui ont été évoquées là, qui gardent encore des fragilités dans leur camp que vous avez évoquées. Alors, à la fois l'un, le Proche-Orient pour l'un, et puis d'autres, certaines réserves, et on le verra tout à l'heure, dans le camp républicain pour Donald Trump.
Alors, l'un a une fragilité d'âge et l'autre a une fragilité pénale. Ah. Voilà. Alors, la fragilité pénale, en fait, due au système pénal américain, au retard, aux appels, à la position que la Cour suprême va prendre sur... est-ce qu'on peut tout de suite, est-ce qu'on peut attendre plus tard? Un peu le système à la française durant la période où le président est président, tout s'arrête, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Et puis il a un deuxième sujet qui est beaucoup plus inquiétant pour lui, c'est l'amende, c'est-à-dire le fait qu'il est à court d'argent personnel, qu'il cherche désespérément à trouver par à peu près tous les moyens. C'est beaucoup d'argent, c'est plusieurs centaines de millions de dollars, donc c'est un vrai sujet pour lui qu'il doit régler rapidement. Et pour ça, il n'y a pas de suspension ou de quoi que ce soit, il va falloir le donner. Donc, dans les deux cas, il y a un risque, mais il faut savoir que rien n'est jamais final jusqu'au moment des deux conventions, juillet et août. juillet à la Républicaine, puisque le Républicain n'est pas sortant, donc elle a lieu avant. Le challenger est désigné avant, et quand il y a un président sortant, lui-même candidat, la convention, donc cette fois démocrate, donc la première a lieu à Milwaukee en juillet, la seconde à Chicago.
C'est-à-dire que jusque-là, les choses peuvent bouger ?
Tout peut toujours bouger. Les règles des deux conventions sont ainsi faites que jusqu'au moment du vote, le candidat qui a les délégués, pour l'instant, par exemple, Trump a, je crois, 100 délégués sur 2000 et des cacahuètes. Donc, pour l'instant, certes, il a gagné à peu près tout, il va gagner à peu près tout, mais ça n'est pas fait jusqu'au moment du vote. Et il faut savoir qu'il y a des règles très compliquées dans les conventions. En fait, si un candidat disparaît, s'il n'est plus là, s'il est empêché, s'il meurt, s'il disparaît, et ben, la convention dispose de pouvoirs propres qui permet de régler cette question. C'est-à-dire qu'au premier tour, tout le monde doit voter pour le candidat pour lequel on a été désigné. On a un pledge, un serment. Donc on vote pour le candidat. Mais s'il n'y a pas de résultat, ou si le candidat a disparu, on fait comme on veut.
Amy Green, a priori, ce sera l'affiche de la prochaine présidentielle, ou est-ce qu'il peut, comme on l'a entendu à l'instant, il peut y avoir encore des surprises? C'est-à-dire que primaire après primaire, on a l'impression que les choses se confirment de part très... on attendait des surprises, on attendait des candidats qui sortaient du chapeau, on surveillait Nikki Haley du côté des Républicains, et puis on se dit, bah non, ce sera peut-être ces deux-là.
Oui, finalement, il y avait beaucoup d'encre qui était versée pour parler et chanter les éloges de Ron DeSantis comme une sorte de futur Trump. Et on a vu qu'il avait une très courte durée de vie dans l'investiture républicaine. En effet, tout reste encore techniquement possible, mais l'affiche s'annonce désormais. Mais effectivement, il y a vraiment des vraies réserves du côté des démocrates quant à l'âge du président. Et ça, on en reviendra peut-être.
Oui, bien sûr, on va en parler.
Il ne faut pas se tromper de la qualité de sa présidence et de la capacité à gouverner, mais il y a vraiment une fronde par rapport à cette incapacité à faire émerger une nouvelle génération démocrate. Et puis, en effet, il y a un certain nombre de procès en cours pour le président Trump, l'ancien président Trump, ce qui fait que il peut se trouver coupable devant la justice, et ça peut laisser une petite porte disponible pour Nikki Haley, qui aujourd'hui reste dans la course malgré tout, malgré la très faible possibilité.
Il paraît que c'est la question qu'on lui pose en permanence quand elle va dans les médias américains, c'est « mais pourquoi vous continuez? Vous n'avez aucune chance ».
Et tout à fait, c'est ce que les médias posent cette question-là, et elle insiste qu'elle va rester jusqu'au bout. Pourquoi? Ça, c'est vraiment la question. Alors, d'abord, elle veut, à mon avis, pas du tout se laisser impressionner par ce type d'abruti Trump qui n'arrête pas de se moquer d'elle, de la critiquer, évidemment, d'essayer de saboter sa campagne. Mais je pense qu'il y a aussi une raison de fond, c'est-à-dire qu'elle attend de savoir si Trump sera trouvé coupable. Ouais. Et puis, à ce moment-là, il y a un pourcentage assez faible, mais quand même grandissant, d'électeurs républicains qui disent un verdict coupable, c'est la chose de trop.
Et ça,
à ce moment-là, elle va compter peut-être sur justement cette technicité qui n'est pas minimale, pour justement se dire, on a cette alternative, c'est moi et je peux être votre candidat. Et là, c'est vraiment la jeunesse et le renouveau face à un Joe Biden qui incarne une ancienne génération politique avec beaucoup de contestation.
Et je le disais, on reviendra dans un instant, on entendra des républicains qui ont des états d'âme et qui disent, en gros, s'il est condamné, on prendra nos dispositions, qui ne sont pas du tout le cœur léger à aller soutenir Donald Trump dans cette nouvelle campagne. Est-ce qu'aux États-Unis, cette campagne, on rappelle que les élections c'est en novembre prochain, passionne les Américains? Est-ce qu'elle déchire les Américains?
Les déchirés,
ils le sont déjà.
Façon de parler, oui, ils sont polarisés, puisque à la fin, ils n'auront que deux candidats. Est-ce qu'elle les passionne en permanence? Ça, je n'en suis pas sûre. Je vous dirai peut-être cela mieux la semaine prochaine, puisque je retourne aux États-Unis.
Vous aussi, vous partez avec Alain Bauer, du coup.
Par des vols différents, je vous rassure. Non, je pense que c'est cette campagne a quelque chose de surréaliste, et c'est surtout ça
pourquoi qui surréaliste?
Parce que vous avez deux candidats dont la plupart des gens ne veulent pas.
C'est ça.
Déjà, vous avez à peu près les deux tiers de l'électorat qui voudraient quelqu'un d'autre. Moyennant quoi, ils auront l'un ou l'autre. Et on voit bien, ne serait-ce que, je sais qu'on en parlera tout à l'heure, mais je ne peux pas m'empêcher déjà de
déclarer... faites du teasing.
L'histoire de Taylor Swift, quand on en est à se dire c'est peut-être Taylor Swift qui va faire une différence, c'est vraiment... que tout est possible. Et il y a une définition que j'ai entendue, c'est Karl Rove, qui est un des meilleurs spécialistes, des meilleurs commentateurs de la politique américaine, qui a écrit dans le Wall Street Journal, « Cette élection est une série d'imprévus couplé avec des incertitudes et le tout surmonté d'impondérables. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure définition de cette élection.
Ça veut dire qu'il ne sait pas grand-chose de la façon dont les choses vont
se
passer.
Mais non, parce que même les plus grands spécialistes, ouais. et je ne prétends pas en faire partie, et même l'électeur, l'électrice moyenne que je suis, sont complètement... désarçonnés devant cette élection où tout peut partir dans tous les sens. Est-ce que l'un va mourir? Est-ce que l'un va tomber malade? Est-ce que l'un va se retrouver devant les tribunaux, condamné? Est-ce qu'on n'a pas parlé de Robert Kennedy? Mais c'est quand même intéressant.
On va en parler.
La troisième voie, vous avez quand même cet homme qui porte le nom de son père et qui est porté par le nom de son père, mais qui en même temps accoste les dames dans la rue pour leur dire qu'elles vont assassiner leurs enfants en les faisant vacciner, pense être victime d'une grande conspiration du FBI et de la CIA réunis, qui fait quand même autour de 10%. Enfin, ça dépend des sondages. Et on voit bien que la grande différence dans cette élection pourrait être faite par des gens comme Robert Kennedy, qui ferait basculer en faveur de Donald Trump, et surtout par ceux qui ne vont pas voter. Parce qu'on parle beaucoup de ceux qui votent, mais ceux qui vont faire la différence, c'est aussi ceux qui vont baisser les bras devant ce tas d'incertitudes.
On parlait de l'âge du président américain. Pour 67% des Américains, Joe Biden est trop vieux pour se présenter. 57% considère que Trump est trop vieux pour se présenter. En tout cas, Joe Biden n'apprécie que très moyennement les charges de Trump sur son âge. Hier soir, lors d'un show télé, il a moqué un Donald Trump qui ne se rappelle même pas, lui, du nom de sa femme. Les deux candidats se marquent à la culotte et ont remporté tous les deux leur primaire dans le Michigan. Mais le chef de la Maison-Blanche perd des points, on l'a dit, affaibli par une colère dans le camp démocrate contre sa proximité avec Israël dans le conflit au Proche-Orient. Constance Meyer, Benoît Thébault.
Nous sommes avec le président Joe Biden.
Dans le fauteuil d'un late show très suivi aux États-Unis lundi soir, le président lui-même. Joe Biden entre dans l'arène et répond aux attaques répétées de Donald Trump.
Il peut me critiquer sur mon âge, lui ne se rappelle pas du prénom de sa femme.
À chaque meeting, son adversaire revanchard ne manque pas une occasion de railler Joe Biden.
Il y a 50 ans, Biden a fait beaucoup pour le pays alors qu'il était très jeune. Il était un peu mieux mentalement qu'il ne l'est aujourd'hui.
Des petites querelles entre les deux grands hommes de la campagne aux États-Unis. Les primaires s'enchaînent et l'écart se creuse. D'après un récent sondage, Donald Trump est crédité de 47% d'intention de vote contre 42% pour Joe Biden. En novembre dernier, seulement 2 points les séparaient. La cote de popularité de Joe Biden est au plus bas depuis le début de sa présidence. Une partie de ses électeurs lui reproche son soutien à Israël.
Nous avons aidé Joe Biden à franchir la ligne d'arrivée en 2020. Nous l'avons soutenu, nous lui avons fait des dons, nous avons frappé aux portes pour lui. Et maintenant, alors que notre famille est bombardée, il ne dit même pas qu'ils peuvent vivre en paix et envoie plus de bombes.
Pour son concurrent qui se voit à nouveau à la Maison-Blanche, un obstacle se dresse sur sa route. Nikki Haley, son ancienne ambassadrice à l'ONU. Elle obtient presque 30% des voix lors des primaires et parasite sa campagne. Alors, dès qu'il en a l'occasion, Trump s'en prend à elle.
Monsieur, je ne me présenterai jamais contre vous, m'avait-elle dit à Mar-a-Lago avec son mari. Où est son mari aujourd'hui? Où il est? Il est parti?
Réponse cinglante de la principale intéressée.
Michael est déployé au service de notre pays, quelque chose dont vous ne savez rien. Quelqu'un qui manque continuellement de respect au sacrifice des familles des militaires n'a rien à faire en tant que commandant en chef.
Ultra favori, Donald Trump surfe sur son thème de campagne privilégié, l'immigration, qui s'invite à la une de l'actualité ces jours-ci.
Dans les titres aujourd'hui, un suspect interpellé dans le meurtre de l'étudiante en Géorgie.
Les services d'immigration ont déclaré que c'était un citoyen vénézuélien. Il était entré illégalement dans le pays à la frontière avec le Texas en septembre 2022.
Un crime immédiatement récupéré par le candidat républicain pour servir son argumentaire.
Des gangs vicieux affluent dans notre pays en provenance d'Amérique du Sud par dizaines de milliers. Biden ne pourra jamais gérer ce problème. Biden est en train de détruire notre pays.
Le nombre d'entrées illégales sur le territoire américain a atteint des records sous la présidence de Joe Biden. C'est devenu le sujet de préoccupation numéro un des électeurs. Alors à quelques mois du scrutin, le président tente de resserrer la vis et souhaite augmenter les effectifs policiers aux frontières. Une nouvelle loi immigration plus sévère qui empiète sur le terrain des républicains. De quoi agacer Trump, qui ferait tout pour la saboter en coulisses.
Ces dernières 24 heures, Trump n'a rien fait d'autre, me dit-on, que d'interpeller les républicains de la Chambre et du Sénat pour les menacer et tenter de les intimider pour qu'ils votent contre cette proposition de loi.
Rien ne semble arrêter l'ancien locataire de la Maison-Blanche dans sa course à l'investiture. Qu'importe les affaires judiciaires, dont les échéances se télescopent avec la campagne présidentielle. Dans cette affaire de fraude civile à New York, le juge vous a condamné à près d'un demi-milliard de dollars, plus les intérêts.
J'ai été inculpé 4 fois. J'ai eu 8 ou 9 procès. Tout cela à cause du fait que, et vous le savez très bien, tout cela à cause du fait que je fais de la politique.
En cas de condamnation définitive, selon la presse américaine, Donald Trump pourrait être contraint de vendre certaines propriétés pour éponger ses dettes, où la justice pourrait tout simplement saisir des biens de son empire.
Il pourrait avoir du mal, Donald Trump, à financer sa campagne ?
Alors, le financement de la campagne, ce n'est pas son argent. Ça n'a jamais été son argent, d'ailleurs. Le charme de Trump, c'est qu'il utilise toujours l'argent des autres. C'est ce qui fait son charme, son papa en général, pour commencer sa carrière. Et puis, l'argent des autres. Et d'ailleurs, il y a eu quelques sujets sur le financement des campagnes précédentes et sur le fond de la campagne, ce qui rappelle d'ailleurs la partie Nixon de l'histoire américaine, puisque cette partie-là était la même. Le vrai problème, c'est que d'abord, il a déjà été condamné. Hein. Personne n'attend. C'est sa prochaine condamnation qu'on attend. Là, il a des condamnations au civil. Le problème, c'est les éventuelles condamnations au pénal. Donc, il est condamné pour des agressions sexuelles, pour diffamation et pour fraude fiscale. Ça, c'est ce qui est déjà fait.
Alors,
il y en a en appel, il y en a qui iront à la Cour suprême, etc. Et puis, il y a toutes les autres fraudes. Celle, c'est la fraude à l'élection, la tentative de subvertir le processus électoral de la dernière fois, qui là est un processus beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, sur lequel il y a beaucoup de débats. Mais le financement de sa campagne électorale ne pose aucun problème à ce jour. Par contre, ses finances personnelles sont lourdement handicapées par la peine qu'il vient de recevoir pour fraude fiscale, parce que là, il doit la gager.
Et justement, c'est pour ça qu'il a vendu des baskets. Je voudrais qu'on revoie. C'est du Trump. Hein. Il a été condamné, vous l'avez dit, à une amende de 355 millions de dollars.
Ça fait presque un demi-milliard en tout.
Pour fraude financière. Et il a trouvé la moyen de la payer. Alors, il a vendu des baskets à la Trump. Hein, vous allez voir.
399 dollars
jusqu'à 9 000 dollars. Et c'est lui-même qui a lancé la vente. Regardez.
Merci beaucoup. Je vois qu'il y a quelques femmes qui pleurent ici. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Merci. Je pense que ce sera un grand succès. Vous êtes des influenceuses, vous le savez. Et vous aimez ce que nous faisons. Voici ce que nous faisons, voici le résultat.
That's the real deal. Bon, il a vendu les 1000 exemplaires tout de suite, mais il doit être pas si bien que ça pour faire le vendeur comme ça pour vendre des baskets.
Oui et non, en fait, parce qu'il y a aussi une volonté, et ça c'est constant dans ces procédures judiciaires, de montrer l'appui inconditionnel de sa foule. C'est-à-dire que plusieurs fois dans toutes ces procédures judiciaires, il l'a dit. Il a dit « si vous me condamnez, faites attention. Il pourrait y avoir des émeutes, il pourrait y avoir de la violence. Et ça appartient à cette rhétorique, c'est-à-dire qu'il dit « vous les juges, regardez bien, regardez ce que ces gens sont prêts à faire pour moi. »
Pour moi, oui, d'accord.
Et ça, c'est vraiment très important. Et dans sa procédure judiciaire, c'est quelque chose qu'il fait tout le temps. Je reviens juste un instant sur le financement de campagne.
Oui.
Alors, sur le financement de campagne proprement dit, on note quand même, et ça a beaucoup étonné, que son premier mois de 2024 n'a pas été très bon, contrairement à son année 2023. Il a perdu un peu de terrain sur les levées de fonds par rapport à Biden. Parce qu'il y a un autre problème, c'est que par contre, ces financements de campagne servent beaucoup à payer ses frais juridiques, ses frais d'avocat, ses frais de procédure judiciaire. Et ça, évidemment, est-ce que ça ne va pas handicaper à long terme sa levée de fonds ? Donc voilà, cependant, il montre quand même cette masse inconditionnelle. Et tout à l'heure, on disait, la grosse différence entre Biden et Trump, c'est que la majorité des gens n'en veulent pas, c'est vrai. Mmh. Mais chez son socle, Trump est beaucoup, il y a beaucoup plus d'enthousiasme chez Trump que chez Biden. Il y avait un sondage début janvier, 18% des démocrates se déclaraient très enthousiastes sur Biden, 44% des républicains pour Trump. Donc, c'est pas, Trump, c'est pas une unanimité des républicains, mais son socle est beaucoup plus enthousiaste et on le voit avec ses baskets aussi.
Et chez les très conservateurs, effectivement, les taux de soutien montent jusqu'à 7 sur 10. Donc ça veut dire qu'effectivement, les électeurs de Trump votent pour la personne, quoi qu'il arrive, et les électeurs de Biden votent plutôt pour s'aligner derrière la position démocrate pour éviter Trump ou par devoir simplement. Donc il est vrai qu'il y a vraiment cet écart d'enthousiasme qui risque d'être très difficile pour Biden au moment de l'élection.
On revient sur cette question assez désagréable de l'âge. En France, il y avait eu cette sortie de Lionel Jospin qui lui avait coûté très cher quand il a évoqué l'âge de Jacques Chirac. Là-bas, c'est devenu un argument de campagne. Les deux s'envoient des vannes à longueur de temps sur leur âge respectif. Cette question d'Hervé dans le Morbihan, pour vous, Anne Toulouse, les électeurs du camp démocrate ne se questionnent-ils pas aussi sur la capacité de Biden à effectuer un second mandat ?
Ah oui, c'est le problème, parce qu'il va avoir 82 ans au moment où il sera élu, ce qui veut dire 86 à la fin de son mandat. Et c'est sûr que c'est un âge de la vie où tout peut arriver. En plus, son âge n'est pas très différent de celui de Donald Trump. Mais Donald Trump, on voit bien qu'il est beaucoup plus... il a beaucoup plus d'énergie. Bon, il risque aussi de tomber les bras en croix sur un coup de sang, parce que c'est quand même quelqu'un qui a...
Il a oublié le nom de sa femme, visiblement. Hein.
Je ne sais pas s'il a... Il a oublié le nom de l'une de ses femmes où il a
appelé Mercedes à la place de Mélania.
Ah oui, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème de l'âge et surtout Donald Trump, quelqu'un disait « seul Dieu » où les tribunaux peuvent nous en délivrer. Et quelqu'un a ajouté peut-être un hamburger de travers, qui passe de travers. Mais c'est d'autant plus gênant que c'est dans une nation qui est très jeune, où la moitié de la population a moins de 40 ans et qu'elle ne se reconnaît pas du tout dans ses grands-pères. Et on voit bien les efforts pour faire voter les jeunes et d'une certaine façon leur réticence à le faire parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas, que ce sont toujours les mêmes qui occupent les postes, parce que c'est non seulement les deux candidats à la présidence, mais si vous voyez la tête du Sénat Mitch McConnell a combien, 85 ans, quelque 80 quelque chose comme ça.
Il a fait plusieurs malaises.
La moyenne d'âge du Sénat est 67 ans. Enfin, ouais. Donc, il y a une espèce de gérontocratie qui est totalement en décalage avec la population et qui fait que... Alors, on dit Joe Biden a été désigné parce que c'était celui qui était le plus à même de faire gagner son parti, mais les autres n'ont pas eu l'occasion d'essayer non plus. Il ne leur a pas laissé la place. Ouais. Et je crois que c'est ça le grand reproche que peuvent lui faire les démocrates, c'est qu'il a quand même bloqué la position et qu'il a barré la route à des talents qui ne pourront s'exprimer qu'en 2028.
Amy Green, sur quoi fait-il sa campagne, Joe Biden ? Sur son bilan ? Sur quoi est-ce qu'il fait campagne ?
Oui, pour le moment, effectivement, le message de campagne de Joe Biden n'est pas tout à fait clair. Et d'ailleurs, il effectue une campagne que je qualifierais d'assez discrète, pas très enthousiasmant. Pourquoi ? Parce qu'il reste assez en retrait. Il est vrai que le message que la campagne de Biden va propager, c'est vraiment, encore une fois, la défense de la démocratie, les enjeux, c'est existentiel pour le pays. Donc, il va évidemment miser beaucoup sur le choix entre la démocratie, l'ordre,
le
droit et le chaos. Ouais. Et il va sans doute s'appuyer sur des sujets comme l'avortement, des sujets de société qui sont extrêmement crispants, mais sur le sujet de l'avortement, a su gagner des élections et a pu être fédérateur, y compris dans les États assez compliqués. Conservateur. Donc c'est un sujet qui traverse le Parti démocrate et qui touche à l'ensemble de la population des États-Unis avec un soutien pour ce droit qui est vraiment majoritaire partout. Mais si je me permets aussi d'ajouter un propos par rapport à la question de l'âge, il est vrai aussi qu'au sein du Parti démocrate, les jeunes généralement se mobilisent du côté des démocrates. Donc, en effet, il y a une attente particulière de la part de la jeunesse de voir émerger des voix qui les incarnent. Il y a des générations et des générations d'adultes aux États-Unis qui ont grandi puis vieilli avec toujours les mêmes têtes au pouvoir.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans le système américain pour qu'on en arrive à cette situation-là que vous avez racontée à la fois sur la moyenne d'âge du Sénat et puis sur le profil de ces deux candidats à la présidentielle ? Pourquoi c'est verrouillé ?
Parce qu'ils ne veulent pas partir.
Oui, non, mais en France,
après, il y a la question de
l'argent.
Après, il y a l'argent.
Et puis, il y a la mainmise des deux partis aussi qui verrouillent la vie politique.
Corentin Célin.
Il y a deux effets, en fait, qui se renforcent l'un l'autre. Premièrement, le financement privé des élections. Quand on est un investisseur privé, on mise plutôt sur le sortant que sur un jeune qui n'est pas sûr. Mmh. Et la deuxième chose, c'est la non-limitation dans le temps des mandats au Congrès. C'est-à-dire que tant que vous voulez vous présenter pour être sénateur ou représentant, bah, vous pouvez, il n'y a pas de limite dans le temps, il n'y a pas de limite des mandats dans le temps. Et donc les deux ensemble, bah, ça fait qu'aujourd'hui, on a encore, par exemple, des sénateurs qui commencent un énième mandat à 90 ans, comme le sénateur Grassley d'Iowa, ce qui est quand même incroyable. Mais il a été réélu et avec des donateurs qui ont financé sa campagne sans sourciller.
Mmh. Il y a le sentiment aussi avec la polarisation politique qui s'accentue avec le temps. Il y a aussi cette petite musique qui est même assez bruyante des fois, qui est de dire en fait, face à ces clivages-là, il faut des personnes très expérimentées qui savent faire marcher le système, qui peuvent obtenir des résultats, qui ont une expérience avérée. Donc il peut y avoir aussi cette réticence des personnes au pouvoir de vouloir céder parce que ça encourt le risque de laisser perdre des élections. Et quand il y a des enjeux existentiels comme la démocratie, comme on est en train de discuter sur cette élection-là, il peut y avoir aussi cette envie de s'accrocher parce que le risque de perdre, c'est encore plus important. Mm-hmm.
Dans sa campagne, est-ce que Donald Trump se victimise? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a cette citation lors d'un déplacement en Caroline du Sud, il dit « Beaucoup de gens disent que les personnes noires m'aiment bien parce qu'ils ont tellement souffert et été discriminés et ils me voient comme quelqu'un qui a été aussi discriminé. » C'est ça, sa façon de se positionner dans cette campagne? C'est plus le Trump tonitruant, c'est le petit chose quand on le...
Il se pose toujours en victime. Quoi qu'il lui arrive, ça n'est jamais de sa faute.
Ah bon?
Il s'est même comparé à Navalny. Moi aussi, je suis la victime du système judiciaire. Moi aussi, je suis persécutée. C'est le gros argument de Donald Trump. C'est la chasse aux sorcières permanente. Et c'est aussi quelque chose, je dois dire, d'assez américain, de se victimiser. Parce qu'on est, peut-être parce que la population est très identitaire, on est toujours la victime de quelqu'un d'autre. Et quand il vous arrive quelque chose, c'est que vous êtes la victime du système et non pas de vos propres manquements.
Alain Bauer, pendant le reportage, on parlait de Nikki Haley, qui est toujours dans cette campagne. La question des donateurs est intéressante. Pourquoi? Est-ce qu'elle a toujours des donateurs, Nikki Haley, pour financer sa campagne si personne ne croit à son succès?
Ils font le même pari qu'elle. Elle ne va pas gagner, mais elle peut être là le cas échéant. Elle ne va pas gagner, mais elle est la figure alternative. Elle ne va pas gagner, mais elle sera jusqu'à la convention. Elle sera le caillou dans la chaussure et elle forcera soit Trump a un léger recentrage parce qu'il ne peut pas perdre un quart de ses électeurs, car elle pèse grosso modo à chaque primaire un quart, un tiers, enfin quelque chose qui n'est pas ultra minoritaire. Elle ne fait pas les scores ridicules des opposants à Joe Biden dans les primaires. L'opposant à Joe Biden, il est hors des primaires, c'est Kennedy. C'est le troisième homme de la campagne. Mais elle est là et les financeurs sont là, y compris des financeurs démocrates, pas seulement des financeurs républicains, d'après ce qu'on voit, puisque c'est assez public, pour dire on garde l'alternative à la fois pour recentrer Trump le cas échéant, et s'il n'est pas là. Donc c'est un vrai investissement sur l'avenir et ils sont d'accord avec sa ligne d'ailleurs, qui est de dire je suis légèrement centré. Et surtout, elle permet de sortir du débat sur l'avortement lui-même d'ailleurs, Trump, qui a tout fait pour que la législation sur l'avortement au niveau fédéral tombe, est en train de se rendre compte des effets dévastateurs de ce qu'il a créé, et à la Cour suprême, et en soutenant cette opération lors des élections locales. Car Biden, avec son score assez mauvais de popularité, a donné des victoires aux démocrates aux élections locales un peu partout.
Sur ce sujet-là.
Grâce à ce sujet-là.
Oui, bien sûr. La campagne se jouera-t-elle sur les questions d'immigration, comme la fois précédente? Je le disais en débutant cette émission, les deux vont se rendre au Texas. On a vu que ce fait divers avait servi d'argument de campagne pour Donald Trump, qui a parlé de monstres concernant ce Vénézuélien et qui a dit à quel point le pays était envahi et à quel point Joe Biden portait une responsabilité dans la situation des États-Unis. Ça se joue sur l'immigration? C'est pas tellement le terrain de Joe Biden, hein?
Non, mais c'est comme toujours dans une campagne américaine, c'est l'affrontement de deux récits. Et pour le récit républicain, la priorité des priorités, c'est l'immigration, c'est la situation à la frontière, c'est quelque chose qui est rabâché par Trump, mais pas seulement. On voit bien en ce moment, avec la discussion d'une loi sur le durcissement des conditions d'entrée à la frontière, que les sénateurs républicains, en majorité, ont rallié les thèses, j'allais dire, nativistes, anti-immigration de Trump. Et donc... Ça, c'est le récit républicain. S'ils arrivent à convaincre une majorité de la population que c'est effectivement le problème le plus important, ça favorisera Trump. Ouais. Les démocrates, eux, ils ont intérêt à porter la campagne sur autre chose.
Sur quoi ?
Défense des droits fondamentaux comme l'avortement, défense de la démocratie. Et donc, en fait, c'est le récit qui finira par s'imposer. Aujourd'hui, on est en février. On s'aperçoit que hier, dans le dernier sondage Gallup, ils enquêtent régulièrement sur les sujets de préoccupation principaux des Américains, l'immigration vient de revenir en tête. Et donc, pour l'instant, on a l'impression que les Républicains sont en train de gagner cette bataille du récit. C'est leur thème qui est en tête. Et effectivement, Biden est très embêté. Parce que Biden, s'il est trop dur sur l'immigration, s'il durcit les conditions d'entrée sur le territoire, la gauche et les jeunes, et souvent ce sont les jeunes qui sont le plus à gauche dans le Parti démocrate, vont encore s'éloigner de lui. Mmh. Donc c'est très compliqué. Il doit trouver sur cette position, trouver une position médiane, c'est très compliqué.
Mmh. C'est un sujet très piégeux parce que finalement, il y a des fragilités des deux côtés. Il est vrai que Joe Biden avait promis une grande réforme de l'immigration, quelque chose qu'il n'a jamais livré, et on a vu par le reportage qu'il y a des taux records de passage dans le pays. Donc en effet, le recul de l'immigration est en train de s'imposer. Et pourquoi ? Parce que aussi au sein des États démocrates qui sont typiquement ou traditionnellement accueillants à l'immigration sont aussi sous tension.
Ça veut dire quoi sous tension ?
Ben, ça veut dire que, en fait, que ce soit des États comme le Colorado, dans le New York, en fait, il y a un flux d'immigrés qui fait que ça met des systèmes sociaux d'allocation des aides sous tension alors qu'il y avait déjà une demande de la part des personnes qui résidaient déjà dans ces États. On avait vu ça par certains actes très politiques très très forts, en tout cas très marquants. Il y a quelques temps, il y avait le gouverneur de la Floride qui avait envoyé par avion des immigrés sur l'île de Martha's Vineyard, une île très très chic dans le Massachusetts. Et puis plus récemment, nous avons vu qu'il y a des envois vers le Colorado et encore vers le New York, et même à New York même. Des endroits très peuplés avec un besoin de social très très fort. Et là, ajouté à ce besoin principal, premier, le besoin, en plus des immigrés, qui va venir aussi déborder des centres d'accueil. Donc ça met aussi sous pression dans des endroits qui sont traditionnellement accueillants.
Avec un État comme le Texas qui menace de faire un Texit, considérant que l'État ne les protège pas sur les questions d'immigration.
Oui. Mais en même temps, c'est vrai qu'il peut y avoir ce récit très très fort, mais du côté de Trump, son équipe prépare une politique extrêmement dure vis-à-vis
de l'immigration. Qu'est-ce qu'il dit de différent ? Il veut faire un mur toujours ?
En fait, il veut sans doute toujours faire le mur, mais il veut aussi militariser davantage les déportations. Il veut créer et construire des camps de détention des personnes qui se
Ça veut dire quoi, militariser les déportations ?
Ça veut dire impliquer le militaire, éventuellement donner rafle des communautés pour recenser des immigrés illégaux ou en situation illégale.
Donc sur ce
les mettre dans les camps. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un point de non-retour où les démocrates qui auraient peur de l'immigration ne peuvent pas y aller.
Sur ce sujet, Anne Toulouse, il a considérablement durci son discours sur les questions d'immigration.
Ben, on voit d'ailleurs le vocabulaire employé à la fois par l'équipe de Joe Biden et celle de Donald Trump qui vont aller ensemble. Ouais. Enfin, pas ensemble, non, mais au même moment. Le long, et puis elle est longue, donc c'est le chaos. Et tout le monde est d'accord sur le fait que la frontière sud est le chaos. Simplement, on ne l'attribue pas aux mêmes causes et aux mêmes hommes. Mais c'est vrai, ce que disait Emile est très juste, c'est que, en fait, jusqu'à présent, le reste du pays ne s'était pas trop occupé de ce qui se passait à la frontière sud, parce que c'était le Texas qui fait la moitié de la frontière, qui supportait tout le poids financier et social, et qui a eu l'idée d'envoyer ces gens à New York. Et on voit le maire de New York, de la ville de New York, qui est un démocrate, dire « mais ça suffit, mais que fait donc le gouvernement ?» parce que vous avez des gens qui dorment dans la rue. Et si vous interrogez la population américaine, enfin du moins dans les sondages, et puis je sais pas, un peu de mon expérience personnelle, les gens ne sont pas contre l'immigration en tant que telle. Les États-Unis sont un pays d'immigration. La population a plus que doublé en un siècle et demi. Ils sont contre le chaos et l'immigration qui n'est pas maîtrisée. L'immigration illégale qui prend le pas sur l'immigration légale, parce qu'on oublie, on voit les gens qui attendent à la frontière pour entrer illégalement aux États-Unis, on attend tous ceux qui ont un backlog de leur visa et qui veulent rejoindre leur famille, qui ont des visas de travail et qui sont bloqués. Donc les gens ne comprennent pas comment ça.
Mais est-ce qu'il a durci son discours, Trump, par rapport à ce qu'il disait sur le sujet de l'immigration ?
C'est le même discours en beaucoup plus grossier, en beaucoup plus violent. Il utilise des termes extrêmement vicieux. Mais c'est du Trump, je veux dire, il n'y a rien de changé. Ce qui est nouveau, c'est qu'une partie de la base des élus républicains qui étaient prêts à des accords bilatéraux, d'ailleurs tous les deals qui sont faits sont bilatéraux pour la survie de l'État fédéral, pour son financement, pour sa dette et pour la loi sur l'immigration, réussissent au Sénat, c'est-à-dire qu'il y a un accord qui permet d'avoir une majorité, y compris une super majorité, donc on peut aller loin, et s'effondrent à la Chambre des représentants, où les Trumpistes ont vraiment pris le contrôle, en éliminant un par un tous les présidents possibles et imaginables, avec une majorité de plus en plus fine, ils ont radicalisé la Chambre sur « il n'y aura plus aucun deal jusqu'à l'élection ». Et il essaye, et c'est ce qu'explique le président Biden lors de son entretien, il dit « en fait, dès que j'ai un accord avec quelqu'un, Trump le casse parce que jusqu'à l'élection, tout ce qui peut ne pas marcher sera pris en main par Trump pour gagner ». Donc c'est extrémisé dans l'emballage, il n'y a pas eu de changement profond. Là où il évolue, c'est sur l'avortement, il a commencé à faire un petit pas de côté.
Parce qu'il ça lui a coûté cher.
On pourrait trouver un accord sur X semaines ou Y, faut qu'on arrange, parce qu'à chaque élection, à chaque référendum, dès que les électeurs sont appelés dans des États très conservateurs, ils basculent la majorité, qui essaye aujourd'hui d'interdire les référendums pour éviter de perdre.
Alors je voudrais qu'on parle justement de cet électorat très conservateur. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les Moms for Liberty ne sont pas juste des mamans d'élèves qui bataillent contre le mouvement woke à l'école pour protéger leurs enfants. C'est une organisation désormais inscrite sur la liste des groupes haineux en Amérique, au même titre que les Proud Boys ou le Ku Klux Klan. Les Moms for Liberty ont opéré une ascension fulgurante au sein de la galaxie des mouvements conservateurs aux États-Unis. Le reportage sur place de Juliette Vallon et Arnaud Faure.
Ce matin-là, devant le Capitole de Columbia, résonne l'hymne américain. Un hymne et une prière. Les Moms for Liberty se sont donné rendez-vous devant le siège du gouvernement de la Caroline du Sud.
Father Lord, we thank you for today, for this is a day you've made. Amen.
Des mères américaines en croisade.
Nous encourageons les parents à prendre la parole au conseil d'administration des écoles pour mettre sur la table les sujets qui affectent leurs enfants dans les salles de classe et à défendre leurs enfants. C'est ça qu'il faut faire, c'est la seule chose à faire, continuer à défendre nos enfants. Pour ces mères, grand-mères, la guerre culturelle se joue dans les salles de classe contre des enseignants jugés trop progressistes.
Il y a des livres à connotation sexuelle explicite qui ont été validés pour des enfants de 5-6 ans. Ils montrent des dessins de pénis détaillés à propos d'actes sexuels. Et je vais même vous dire avec des actes sexuels qui concernent des personnes de même sexe. Aujourd'hui, on en est au point où si vous n'êtes pas woke, vous ne pouvez pas exister dans ce pays. Vous avez les réseaux sociaux qui vous bloquent parce que vous n'êtes pas assez woke. J'en ai ras-le-bol de ce bazar woke.
Les Moms for Liberty donnent du courage aux parents qui n'ont pas le courage de parler à haute voix.
À la tribune, un sénateur républicain invité par l'association. Car les Moms for Liberty rêvent de peser dans le débat politique en pleine campagne présidentielle. Officiellement, l'organisation ne soutient personne. Pourtant, lors de ce déjeuner privé, les pancartes ne laissent pas de doute sur le choix de son candidat. La rhétorique de l'ancien président est dans toutes les têtes, anti-avortement, anti-vax, anti-immigration.
On ouvre nos portes à des millions de gens sans savoir qui ils sont, où ils sont et quelles sont leurs intentions. Je pense que tout cela arrive à cause de Joe Biden.
Une haine contre Joe Biden, alimentée par une théorie conspirationniste. Pour ses maires, l'ancien président républicain poursuivi en justice est victime d'un complot.
Bien sûr que l'élection a été volée. Je pense que ce qu'ils ont fait, c'était une tactique communiste, comme en Chine. Ce sont les mêmes méthodes qu'en Chine.
Un discours extrême qui vaut à cette organisation d'avoir été rajoutée à la liste des groupes américains dangereux par une ONG aux États-Unis. Rhétorique haineuse, propagande conspirationniste, méthode de harcèlement, intimidation systématique. Ces pratiques brutales, cette mère de famille démocrate les aurait subies devant son propre domicile en Floride, après avoir milité pour le port du masque dans l'école de sa fille.
Elles m'ont frappé au visage et m'ont craché dessus en me disant qu'elles allaient me donner le Covid. Elles m'ont jeté des drapeaux qui auraient pu me blesser au visage. Elles ont raconté des choses atroces à mes voisins. Et quand je suis rentrée chez moi, elles brandissaient leurs armes sur le parking devant chez mes voisins. Ma petite fille me demande encore aujourd'hui, quand elle va se coucher, « Maman, est-ce que ces méchantes personnes sont encore dehors devant chez nous ?» Mensonge, réplique la cofondatrice des Moms for Liberty. Pour elle, on essaye simplement de les discréditer.
Nous sommes des joyeuses guerrières, c'est notre slogan depuis la création de notre mouvement. On est en train de renverser la vapeur dans le domaine de l'éducation aux États-Unis. Les syndicats d'enseignants et beaucoup d'organisations classées à gauche s'occupaient de l'éducation depuis très longtemps, et comme je l'ai déjà dit, l'éducation est en train d'échouer aux États-Unis.
Les Moms for Liberty, de joyeuses guerrières, comme elles se surnomment, cajolées par Donald Trump. Avec elles, l'ancien président espère attirer l'électorat féminin qui lui a manqué il y a 4 ans. Seuls 39% des Américaines avaient voté pour le milliardaire.
Corentin Salin, votre réaction à ce reportage? On précise qu'elle revendique 12 000 membres dans le pays, ces Moms for Liberty.
Alors, il faut d'abord rappeler que c'était vraiment un mouvement qui a émergé dans le sillage de Ron DeSantis et qui était très implanté en Floride.
Qui était un candidat républicain qui a jeté...
Voilà, mais qui est surtout le gouverneur de Floride, ouais. Et qui a mené, lui, un vrai combat culturel contre ce que lui appelle le wokisme. Qu'il faudrait définir, c'est-à-dire en fait contre la défense des droits des trans, des homosexuels, et que eux considèrent comme de l'endoctrinement qui est fait en particulier dans les écoles. DeSantis a fait voter des lois contre cela, et ce groupe Moms for Liberty est venu le soutenir en investissant les conseils d'école. C'est-à-dire, c'était un groupe qui a été fondé pour que États-Unis, c'est le conseil d'école, c'est les parents ont un grand rôle dans la direction des écoles. Et ils sont venus au soutien de DeSantis. Ça a très bien fonctionné pour eux jusqu'en, on va dire, 2023, sauf que aux élections locales de 2023, au partiel de 2023, les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur, en particulier en Virginie, où pourtant ils avaient contribué à faire élire un gouverneur républicain précédemment. Et surtout, ils ont été frappés par un énorme scandale. Une des fondatrices de ce groupe a été compromise avec son mari, qui était le directeur du Parti républicain de Floride, dans un scandale sexuel. Et depuis, c'est vraiment un groupe dont l'influence est totalement déclinée.
Mais est-ce que ce débat woke pas woke sert la campagne de Donald Trump, avec une espèce de repli d'une partie de l'Amérique qui considère qu'on est allé trop loin? Est-ce que ça fait partie des enjeux de cette campagne ou pas?
Alors, curieusement, ce n'est pas dans les propos de Donald Trump, ça a été dans un sujet qui a été les universités mises en cause par une élue républicaine avec beaucoup d'habileté et d'efficacité, qui a montré l'incapacité de 3 très grandes universités à gérer le problème de l'antisémitisme et des attaques et agressions contre des étudiants juifs après le 7 octobre. Et l'incapacité de 2 des 3 présidentes, en plus, femmes, dont une femme noire, etc., à dire « oui, je condamne l'antisémitisme », oui, alors ça dépend, du contexte, ça dépend des jours, faut voir, etc., a créé une onde de choc qui a provoqué un effet, alors là, de rejet, de non pas ce qu'elle disait, qui était insupportable, mais également de ce qu'elle représentait en termes de diversité, d'ouverture. Et donc, ça a provoqué un contre-effet, mais qui n'est pas vraiment lié, puisque ceci a été bien dit, c'était plus le sujet de DeSantis. Je pense que Trump a assez rarement...
C'est pas son sujet.
Si, il insulte les gens, mais c'était pas son cœur de si. Par contre, le contre-effet de cette audition au Congrès a été tout à fait considérable et a rameuté dans... La définition imprécise du wokisme, qui veut juste dire qu'on s'est réveillé le matin, woke c'est réveil, a amené un espèce de retour conservateur, de retour de balle très très violent, où 2 des présidentes ont dû démissionner, y compris à Harvard. Et surtout, il y a une sorte de retour sur « non mais ça c'est trop ». Ça, c'est insupportable. Et ça va sur à peu près tout. Les toilettes, l'écriture inclusive, les droits des LGBTQ. Enfin, à peu près tout ce qui avait fait le progressisme académique est aujourd'hui en situation défensive ou de retrait.
Anne Soulouse.
Oui, alors, il est vrai que les parents se mêlent beaucoup de l'éducation de leurs enfants. Ils en ont le droit. Et on voit une tendance à vouloir... insérer les valeurs de la famille dans l'éducation, des deux côtés d'ailleurs, parce qu'on a vu les pressions des parents pour qu'il y ait des cours sur la diversité, pour qu'il y ait des classes plus identitaires, et c'est allé quelquefois très loin.
Avec des classes noires, des classes de...
D'élèves, enfin, où on a, par exemple, où des professeurs mal inspirés ont aligné les élèves selon les plus privilégiés jusqu'au moins privilégiés, c'est-à-dire que vous étiez les oppresseurs si vous aviez des parents blancs, mariés de sexes différents, et puis tout au bout, vous aviez le noir qui était fils d'une mère célibataire. Et ces excès ont généré évidemment d'autres excès que l'on a vus, mais ce système de valeurs, on le voit par exemple dans la progression de l'éducation à domicile. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment 5% des élèves américains qui sont élevés, qui sont homeschool. Oui, je ne sais pas comment on dit ça en français, parce que c'est beaucoup plus rare. Et ça n'a aucun rapport avec la distance, c'est simplement parce que les parents veulent inculquer leurs valeurs à leurs enfants. Et c'est le segment de l'éducation américaine qui progresse le plus vite. Donc, ça veut dire...
Mais est-ce que ça veut dire que ce qui était au départ, évidemment, on met beaucoup de choses derrière l'idéologie woke, qui était quand même la lutte contre les discriminations qui existent quand même aux États-Unis, c'était le point de départ de la réflexion, c'était de dire, ben oui, il y a une discrimination et il faut continuer à lutter contre cela. Ce sujet-là ne fait pas partie des sujets portés d'un côté par Donald Trump ou de l'autre côté par Joe Biden.
Non, parce qu'il y a eu tellement d'excès. Là, on voit la dictature des extrêmes, parce que ça a totalement dérivé et ça a engendré un backlash. Donc, le wokisme est devenu assez difficile à défendre et je pense que tout le monde s'en éloigne en ce moment.
Et c'est un sujet aussi, si on prend la question des Noirs aux États-Unis, on parle des Noirs aux États-Unis comme si c'est un monolithe sans aucune diversité intellectuelle dedans.
Ce qui n'est pas le cas.
Forcément, on va voter à gauche. Voilà. Ce n'est pas le cas, en fait. Et justement, c'est le calcul à la fois de Donald Trump et de Joe Biden. C'est-à-dire, Joe Biden, il va en Caroline du Sud. Il y a toujours la politique identitaire aux États-Unis où Joe Biden va aller se vanter de son bilan par rapport aux Noirs aux États-Unis, la qualité.
Et il a un bon bilan ? Il a un vrai bilan ?
Il y a une insatisfaction croissante, que ce soit sur le plan économique ou social, que l'ensemble des Noirs aux États-Unis ne sont pas d'accord avec le bilan de Joe Biden. Mais de l'autre côté, Donald Trump, il avait dit dans le discours victimaire que vous avez cité tout à l'heure, oui, je comprends les Noirs parce que moi aussi je suis victime toute ma vie, etc. En fait, ce qui se passe depuis 2020, c'est que Donald Trump est en train de siphonner petit à petit une partie de l'électorat des Noirs américains, une partie de l'électorat des Hispaniques aux États-Unis.
Mais avec quel argument ?
Avec les arguments de l'économie, avec l'argument du chaos de l'immigration non maîtrisée, comme disait Anne Toulouse tout à l'heure. Donc il y a ces arguments-là qui est de dire, est-ce que votre situation est meilleure aujourd'hui qu'il y a 4 ans ? C'est l'argument politique classique pendant les campagnes présidentielles. Et un nombre croissant d'Américains répond non. Joe Biden fait passer des lois qui vont modifier fondamentalement l'économie des États-Unis, mais le résultat individuel n'est pas forcément au rendez-vous. Et donc, en effet, aller sur le terrain wokiste, on n'a pas ce qu'on met dedans ce qu'on veut, mais en tout cas, ce n'est pas un calcul politique gagnant pour Donald Trump s'il va combattre cette tendance-là.
Compris.
Non, je voulais dire que dans la diversité des populations, il faut savoir que Donald Trump a réussi à récupérer les cols bleu-blanc, mais les classes moyennes, noires et latino.
D'accord.
Et c'est ça qui est le siphonnage se fait...
Avec l'argument économique, ce qui vient d'être...
Alors, aussi l'argument économique l'amène à récupérer des gens pauvres, insatisfaits. Mais il utilise des moyens qui sont la diversité des populations qui ne sont plus monolithes, comme ceci a été indiqué. C'est-à-dire que tous les Noirs et tous les Latinos ne veulent plus de démocrates. Et ils veulent, par exemple, en Floride, l'échec des démocrates en Floride est marqué par la transition d'une partie de la population latino insérée qui a, elle aussi, peur d'être attrapée par le bas par une partie de l'immigration, alors qu'une partie très aisée démocrate dit « mais il faut laisser les frontières ouvertes parce que c'est aussi nos familles, etc. » Donc l'extraordinaire explosion de l'électorat, le côté consumériste de l'électorat américain, est beaucoup mieux compris par Donald Trump, mais son côté repoussoir a été la chance des démocrates jusqu'à présent, et la grande erreur des républicains a été de pousser cette affaire de l'avortement qui leur est revenu en backlash comme une baffe aux élections locales malgré l'impopularité de Biden. La question, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Si l'avortement est la première préoccupation des Américains, notamment des femmes et des femmes de banlieue, eh bien, Trump perdra. Si c'est l'immigration, il gagnera.
Il gagnera. Vous voulez dire un mot rapidement ?
En complément de ce qui vient d'être dit, l'un des socles électoraux des Républicains et encore plus de Donald Trump, c'est les blancs non diplômés. Et je crois qu'à la différence identitaire, il essaye de superposer, il fait le pari, qu'il peut superposer une différence d'éducation. C'est-à-dire aller chercher les Africains-Américains non diplômés et les Hispaniques non diplômés, surtout ceux qui sont dans des métiers de production. Et c'est vraiment en ça que c'est un populiste. C'est-à-dire qu'il cherche à former une sorte de bloc populaire par rapport aux élites. Il n'y est pas encore parvenu, mais c'est le but. C'est-à-dire étendre le socle blanc non diplômé en essayant d'aller chercher des Africains-Américains et des Hispaniques non diplômés dans des emplois de production pour former un bloc populaire. Mais il n'y est pas encore arrivé.
Alors peut-être que Joe Biden a une carte secrète. Le Time Magazine l'a désigné personnalité de l'année en 2023. 70% des Américains l'adorent. Taylor Swift, icône des jeunes Américains, sera-t-elle l'arme secrète du président candidat démocrate ? La chanteuse la plus écoutée de tous les temps a déjà fait part de son engagement politique aux côtés des démocrates en 2020. Et le camp Trump redoute une entrée en campagne de la star qui pourrait même peser sur le scrutin de novembre prochain. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
C'est la nouvelle théorie du complot à la mode aux États-Unis. Vous êtes-vous déjà demandé comment Taylor Swift a fait pour éclore en seulement quelques années? Je vais vous le dire, il y a 4 ans, l'unité d'opération psychologique du Pentagone aurait parlé de Taylor Swift comme d'un atout lors d'un sommet de l'OTAN. Quel genre d'atout? Un agent pour lutter contre la désinformation. Taylor Swift, agent double, en mission pour faire réélire Joe Biden. La théorie fumeuse est reprise par de nombreux médias conservateurs, poussant même le président américain à se justifier avec ironie.
Vous niez ou confirmez le complot qui vous impliquerait avec Taylor Swift?
Où avez-vous eu cette information? C'est secret défense.
Vous ne voulez rien dire?
Je vais vous dire, elle a soutenu ma candidature en 2020.
Et à votre avis, est-ce qu'elle recommencera cette année?
C'est secret défense.
Une affaire qui en dit long sur l'hystérie générale autour de la chanteuse, devenue la nouvelle figure de l'Amérique, capable, dit-on, de faire basculer l'élection présidentielle. Taylor Swift, c'est une histoire comme les Américains les adorent. Petite fille du Midwest, catholique, pratiquante, partie de rien, elle devient le nouveau visage de la musique country à 17 ans. L'Amérique conservatrice et rurale se reconnaît alors dans la jeune fille qui devient en quelques années un phénomène planétaire. Taylor Swift, c'est l'artiste la plus écoutée de tous les temps. Sa tournée mondiale actuelle devrait rapporter plus de 2 milliards de dollars, un record. Personnalité de l'année selon le Time, ultra populaire, son influence dépasse largement le monde musical. Un électeur américain sur 5 se dit prêt à voter comme elle à la prochaine élection présidentielle. Un cauchemar pour les Républicains qui n'ont jamais obtenu son soutien.
Taylor Swift a fait carrière en écrivant des chansons sur ses mauvais choix amoureux, alors je ne pense pas qu'il faille écouter ses conseils.
Ce serait la chose la plus idiote qu'une superstar pourrait faire. Pourquoi dire à la moitié du pays qu'on n'est pas de son avis, surtout en ce moment?
Cauchemar aussi pour Donald Trump, moqué dans les talk-shows.
Trump est jaloux et aurait dit qu'il est plus populaire que Taylor Swift. Quoi ? Plus populaire que Taylor Swift ? C'est insensé. Imaginez Trump remplir des stades au Japon et lancer. Konnichiwa, Japan.
Taylor Swift parle pourtant très peu de politique. Son premier engagement remonte à 2018 lorsqu'elle soutient 2 élus démocrates face à des républicains anti-LGBT. Un tournant raconté dans ce documentaire Netflix. Déconvenue terrible pour les conservateurs.
Disons que j'aime la musique de Taylor environ 25% de moins maintenant.
Après avoir soutenu Biden en 2020, Taylor Swift s'engage à nouveau et dénonce l'abrogation du droit à l'avortement par la Cour suprême en 2022, une position osée pour l'ancienne idole de l'Amérique puritaine.
Je suis absolument terrifiée à l'idée que nous en soyons arrivés là, qu'après tant de décennies de lutte pour le droit des femmes à disposer de leur propre corps, la décision d'aujourd'hui nous en prive.
Il n'en fallait pas plus pour faire de la star l'ennemi juré de l'extrême droite. Traitée de tous les noms sur les réseaux sociaux, Taylor Swift est très sérieusement soupçonnée d'être une sorcière ou d'invoquer des démons. De l'hystérie au délire.
Elle ne guide pas les gens vers Dieu, mais vers le wokisme et la haine des hommes. Elle n'a plus rien de chrétien.
Regardez ses concerts, elle fait des rituels sataniques, de la sorcellerie.
Taylor Swift serait-elle la personnalité la plus influente du monde ? La dernière fois qu'elle a appelé ses fans à voter, 35 000 nouveaux électeurs s'étaient inscrits sur les listes en à peine quelques heures.
Il est intéressant ce reportage sur ce que ça raconte aussi de la campagne des États-Unis. On peut juste préciser qu'il y a 41 millions d'Américains en âge de voter, dont 8 millions de primo-votants pour la prochaine élection qui seraient peut-être sensibles à ce que dit Taylor Swift, à la fois sur le fait d'aller voter et puis peut-être son parti pris pour un candidat. Cette question de Michel en Belgique, si une chanteuse, si populaire soit-elle, peut faire basculer l'élection du président des États-Unis, il faut s'en inquiéter, non Alain Bauer?
Non, tout le monde peut participer à la propagande, l'incitation. Alors d'abord, l'incitation à voter de nombreux artistes dans des campagnes visant à ce que les jeunes s'inscrivent sur les listes ont déjà eu lieu. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif, que ça soit elle ou n'importe qui, c'est plutôt bien. Après, c'est l'indication à aller voter. Donc personne, en fait, n'en sait rien. C'est un présupposé, mais la panique qui existe chez les
Républicains... C'est une vraie panique, hein. C'est ce qu'on a vu dans ce reportage.
Vous n'avez pas vu le meilleur, qui est Fox and Friends, c'est-à-dire la partie la plus délirante de ce que Fox News peut proposer. Et Fox News, c'est déjà quelque chose. Et où vous avez des débats qui durent des heures. Alors, ils ne vont pas aussi loin que sorcières, etc. D'accord. Mais tout est susurré avec des avis extrêmement sérieux sur un peu ce qu'on est en train de débattre. Mais à l'envers. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son tour actuel, elle a parce que tout à l'heure, vous nous avez chuchuré dans l'intermède que nous ne connaissions pas les titres.
Je m'interrogeais.
Oui. Eh bien, elle a un titre formidable, puisqu'il y a les conventions, c'est juillet et août. Ça s'appelle Cruel Summer, l'été cruel. Ouais. Et c'est peut-être une indication.
Peut-être. Vous êtes donc un fan de Taylor Swift?
Pas du tout, mais j'ai des figoles qui le sont.
Quentin, c'est là.
Oui, ce qui est intéressant quand même, ce qu'il faut voir, c'est, on parle de la réaction des conservateurs, c'est le recours au conspirationnisme qui se diffuse et qui est vraiment, je crois, dans cette diffusion, une nouveauté de la campagne 2024. On voit vraiment l'effet du Covid. En effet, juste un mot, Taylor Swift a été accusée par certains conservateurs radicaux, comme l'ancien candidat présidentiel Ramaswamy, qui joue et qui essaye peut-être de devenir vice-président de Trump. Elle a été accusée d'avoir une fausse aventure avec le joueur des Kansas City Chiefs, Kelce, pour pouvoir, à l'issue du Super Bowl qui aurait été truqué en faveur des Kansas City Chiefs, donner son accord et son soutien à Biden. Évidemment, ça ne s'est pas passé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 18% des Américains sondés par le sondeur Monmouth pensent qu'elle fait partie d'un complot de l'État profond pour soutenir Biden. Ce qui est quand même, enfin, je veux dire, là, on atteint quand même dans le débat politique un point de conspirationnisme, de non-retour dans le conspirationnisme. Et ça, c'est très inquiétant pour la possibilité ensuite de se réunir, de faire consensus et de faire nation.
Et de faire campagne ou pas ? Est-ce que ça peut peser dans la campagne, dans la façon dont se déroule la campagne ?
Oui, bien sûr. En plus, parce que on voit bien qu'il n'y a plus aucun, il y a plus aucun terrain d'entente. Enfin, je veux dire, Taylor Swift, elle a le droit de soutenir Biden ou de soutenir qui elle veut. De là à tout de suite inventer un complot complètement délirant qui serait ourdi par l'État profond, ça montre qu'il n'y a plus de champ commun entre les deux.
Vous voulez dire un mot rapidement l'une et l'autre sur Taylor Swift ?
Oui, rapidement. Elle s'est déjà engagée du côté des démocrates il y a quelques années. C'était bien montré dans le reportage. Donc, en fait, un soutien qu'elle peut proposer à Joe Biden, éventuellement, il y aura un impact sur le nombre de personnes qui s'inscrivent, effectivement.
Et qui vont voter.
Mais ce n'est secret pour personne que ses affiliations politiques restent plutôt à gauche.
Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que Dieu merci, la grande majorité des Américains ne votent pas en fonction de ce que dit Taylor Swift. C'est quand même quelque chose qui est totalement à la marge. Mais effectivement, ça en dit long sur la façon dont cette élection explose dans tous les sens.
Mais on voit que c'est une crainte quand même des Républicains.
Oui, alors leur grande crainte, c'est qu'elle a quand même entraîné dans son sillage Travis Kills, qui est le petit fiancé de l'Amérique et qui est un joueur du Super Bowl. Et le Super Bowl, c'est quand même quelque chose de très populaire et aussi assez républicain. Donc voilà, elle est un peu, elle va dans le camp ennemi. Donc c'est un peu Meghan et Harry en version américaine.
Meghan et Harry
du début, oui.
Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Question d'Yvan dans l'Ain. Les électeurs américains ne veulent pas d'un duel Trump-Biden. Pourtant, chacun domine largement ses primaires. Où est la cohérence ?
Oui, mais c'est un peu comme au restaurant. On peut ne pas vouloir de certains aliments, mais si au menu, on ne vous propose que ces aliments-là, bah, vous n'avez pas d'autre choix. Le problème, c'est le problème du choix. Au moins chez les démocrates, Biden a empêché l'émergence de tous les autres en disant « tous derrière moi, parce qu'en face, c'est Trump, c'est la menace sur la démocratie, et si vous ne vous coalisez pas derrière moi, eh ben, ce sera Trump ». Et personne parmi ceux qui auraient pu y aller, Newsom, le gouverneur de Californie, Gretchen Whitmer, la gouverneure de Michigan, personne n'a osé y aller, et tout le monde s'est rangé derrière Biden. Donc, entre Biden et presque personne en face, les démocrates, ils choisissent Biden.
Question de Gérard dans le Jura. Comment un candidat empêtré dans autant d'affaires judiciaires graves et à l'origine de l'assaut du Capitole peut-il se maintenir ?
Simplement parce qu'il a une capacité à rassembler une base tellement puissante, d'abord qu'elle fait peur aux autres, et puis qu'elle correspond aussi à une idée de l'Amérique, c'est-à-dire qu'il n'est pas empêtré dans des scandales, il est victime d'un gigantesque complot, et il est le dernier rempart de l'Amérique. Quand on revient à ce qu'on vient de se dire sur la manière dont on traite un concert de Taylor Swift et de l'éventualité qu'elle fasse ce qu'elle a déjà fait, soutenir un démocrate et dire qu'il faut garantir aux femmes le droit de choisir, on imagine ce que peut être la problématique de Trump. S'il est poursuivi par les scandales, ce n'est pas parce qu'il a fraudé, ce n'est pas parce qu'il a agressé sexuellement, ce n'est pas parce qu'il a menti, ce n'est pas parce qu'il a tenté un coup d'État, c'est parce qu'il est une victime.
Juste, on parlait tout à l'heure de Nikki Haley qui est encore dans la course. Est-ce que tous les supporters de Nikki Haley vont soutenir Donald Trump ?
C'est le risque.
C'est le risque, hein, puisque...
C'est son risque. C'est pour ça qu'elle est encore là.
On en a vu certains dire, hein, comme Adam Kissinger, membre du Parti républicain, ancien élu à la Chambre des représentants, qui dit si c'est Trump, de toute façon, je voterai Biden. C'est-à-dire que je ne pourrai pas soutenir...
Ou on peut ne pas voter du tout aussi.
Oui.
Et on peut voter.
Mais c'est marginal ou pas ? Cette partie des républicains qui disent non, c'est pas possible pour faire suite.
Et elle est quand même assez importante parce qu'on voit quand on interroge les gens qui ont voté pour Nikki Haley en Caroline du Sud, vous avez quand même 60% d'entre eux qui disent je ne voterai pas pour Trump.
C'est ça.
Donc ça laisse une voie soit pour une troisième candidature, soit pour l'abstention, soit pour voter Biden. Mais quand même, chez les républicains, c'est quand même allé assez loin.
Allez, une question de Bruno dans le Val-de-Marne. Une nouvelle menace d'ingérence russe plane-t-elle sur la présidentielle américaine ? Ça, c'est pour vous élaborer ?
Elle est déjà là.
Elle est déjà là.
Ils sont massivement présents. Le FBI, le CISA, qui est le comité qui s'occupe des ingérences informatiques, explique régulièrement qu'il y a eu 378 000 attaques, 450 fakes. Ils démantèlent à peu près toutes les semaines des réseaux de désinformation, de fausses informations, de manipulation de l'information. Non, ça, on est en plein dedans, mais... Pas seulement chez eux, chez nous aussi.
Chez nous aussi, avant les européennes, on en a déjà parlé sur ce plateau. Une question de Pierre dans la Somme. Pourquoi les jeunes Américains se mobilisent-ils pour les Palestiniens et pas pour les Ukrainiens ?
C'est une question très intéressante, effectivement. Il y avait un soutien assez fort des Américains de tous bords et de tout âge au début du conflit ukrainien, en effet, qui s'efface un petit peu à force de l'actualité. Aujourd'hui, il y a vraiment le sentiment de fronde par rapport au soutien des États-Unis pour Israël, et notamment pour cette intervention-là. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, mais il y a ce sentiment à la fois... il y a le sentiment qu'il y a une forme d'injustice qui s'opère, il y a un soutien qui n'est pas à l'écoute et en effet, on voit qu'il y a une rupture générationnelle, effectivement.
Une question de Jean-Jacques dans l'Oise. Que se passe-t-il si l'un des deux candidats a un grave problème de santé, Corentin Célin ?
Tout dépend si c'est avant ou après la convention. Avant la convention, ça peut se gérer. Après la convention, et plus on se rapproche de l'élection, plus ce sera compliqué.
Jacques, dans les Vosges, on n'entend plus parler de Mélania Trump. Elle a pris ses distances.
Bon, elle vient d'enterrer sa mère, donc on peut dire que c'est une période de deuil. Mais enfin, apparemment, elle ne se précipite pas dans la campagne non plus.
Merci à vous tous. On aura l'occasion d'en reparler de cette campagne à coup sûr. Merci pour cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. On se retrouve demain en direct, 17h30, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.